pour lire Luc au chapitre 24, verset 1. Page 1032, Luc, chapitre 24, verset 1, je vais lire jusqu'au verset 12. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres, avec elles. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé.
Merci Églantine. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve lorsque tout ce qui était gage de sécurité s'effondre ? Pensez par exemple à ce qui s'est passé dernièrement au Japon avec un tremblement de terre de magnitude 9, un tsunami, une catastrophe nucléaire. Quelle est la perspective sur l'existence après tout ça ? On pense à la ville de Minami Sanriku avec 17 000 habitants au départ. Et après le tsunami, plus de la moitié de la population a perdu la vie. Plus de 10 000 personnes sont mortes après ce tsunami. Quelle perspective sur l'existence ? Comment ne pas être profondément choqué, avoir un regard sombre sur l'existence ? Ça, c'est vrai sur le plan d'une nation, mais sur le plan d'une ville, mais c'est aussi vrai sur le plan personnel. Comment espérer lorsque quelque chose s'effondre ? Quelque chose qui était central à notre vie, une personne qui nous était proche et qui disparaît, qui meurt. Et avec le texte qu'on vient d'entendre, on va essayer de se mettre dans la peau des disciples pour remarquer qu'eux aussi devaient être dans un état d'esprit assez sombre. Vous avez passé quelques 3 années avec Jésus, vivant au quotidien à ses côtés, vous avez goûté à la joie de sa présence, de son amitié, vous avez entendu son enseignement, vous avez vu des signes qui disent à la fois sa puissance, mais aussi sa grâce. Jour et nuit, il était proche. Quelques jours plus tôt, Jésus entrait dans Jérusalem sous les acclamations d'une foule. C'était l'euphorie, vous aviez le sentiment qu'on touchait à un point culminant. Jésus entrait dans la ville de David, grand roi, et de toute évidence, c'est lui le roi annoncé par les Écritures. Mais alors que la semaine de la Pâque juive se déroule, un renversement se produit, un renversement de taille. L'un d'entre vous, Judas, livre Jésus aux autorités religieuses. Celle-ci livre Jésus à Pilate, le gouverneur romain. Il cherche un motif d'accusation. Ce n'est pas très clair. Il l'accuse de blasphémer. Pilate, lui, va le livrer à Hérode, cherchant lui aussi à donner la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et ensuite, Jésus sera ramené à Pilate. Pilate, sous la pression de la foule, par crainte de décevoir, livre Jésus à la crucifixion. Jésus est bel et bien crucifié. Et après plusieurs heures sur la croix, il meurt, il rend l'esprit, son corps est sans vie. Un certain Joseph d'Arimathée fait descendre le corps de Jésus et il va le placer dans le tombeau qui s'était fait creuser pour lui-même. Et là, en tant que disciple, quelle est votre perspective? Comment est-ce que vous voyez ces événements? Est-ce que ce n'est pas un peu comme une vague qui balaie toute l'espérance que vous aviez dans l'avenir, toutes les attentes que vous aviez? Celui en qui vous avez mis toute votre confiance est mort. Et c'est dans ce contexte-là qu'on entend les premiers bruits d'une résurrection. Témoignage de plusieurs femmes qui prétendent que Jésus est ressuscité. Et là, quelle est votre réaction? Est-ce que ce serait... Je m'y attendais. Je le savais. Au fond de moi, je le savais qu'on n'allait pas en rester là. C'est peut-être ce qu'on a envie de se dire. Et vous vous dites, mais les premiers croyants, disciples de Jésus, on pense généralement qu'ils ont cru facilement à la résurrection. C'est quelque chose qu'ils ont eu aucune peine à croire. C'est ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils espéraient, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que les évangiles vont relater? Et en tant que lecteur du 21e siècle, vous êtes plutôt sceptique par rapport à cela. Peut-être vous vous dites, mais moi j'ai beaucoup de peine à croire à cette affirmation. Bien, j'aimerais vous dire que si vous êtes sceptique ce soir, c'est probablement vous qui êtes le plus proche de l'état d'esprit des disciples. À ce moment-là, on va parcourir ce texte et j'aimerais vous rendre attentif à deux éléments dans le texte. Il est question à la fois de souvenirs et de témoins. Les souvenirs sont au cœur de ce qui est dit dans les versets 1 à 8. Les témoins sont mis en avant dans les versets 9 à 12. C'est d'ailleurs là qu'ils sont nommés pour la première fois dans le texte. Et une chose qui ressort, c'est qu'on oscille entre faiblesse et fiabilité. La faiblesse ou la fiabilité des témoins, des souvenirs, pardon, d'abord, dans les versets 1 à 8. La faiblesse ou la fiabilité des témoins, les versets 9 à 12. On voit certains signes de faiblesse dans les souvenirs, comme chez les témoins, mais paradoxalement, c'est au point le plus bas que la fiabilité reprend le dessus. Et alors qu'on va parcourir ce texte, commencer, il y en a peut-être qui se disent, mais pourquoi même faire confiance à ce texte? Pourquoi est-ce que je ferais confiance à ce témoignage? Après tout, Luc ou un autre, de toute évidence, il croit à la résurrection. Il le met par écrit parce qu'il y croit, non? Est-ce que ce n'est pas déjà biaisé l'évaluation dès le départ? Autrement dit, est-ce que Luc et les autres évangélistes sont fiables dans la description des événements? Est-ce qu'ils sont fiables? Une des thèses qui est avancé couramment au sujet de la résurrection, c'est que c'est un récit inventé. C'est quelque chose qu'ils ont inventé, que les premiers disciples ont inventé. Que ce soit pour lancer un nouveau mouvement ou exercer un contrôle sur les gens, à leur époque, on pense à la théorie d'un complot. Et dans cette perspective-là, les disciples d'un certain Jésus voulaient faire de lui un personnage mythique et ils inventent le récit de la résurrection. Si on retient cette thèse, il faut tout de même poser quelques questions. Est-ce que la résurrection corporelle, à ce moment-là dans l'histoire, c'est la chose la plus facile à affirmer? On sait que c'était difficile à croire pour les Grecs ou les Romains, une résurrection corporelle. On verra par la suite, c'est difficile aussi à croire pour les Juifs. Pourquoi ne pas parler d'une résurrection spirituelle? Ça aurait été beaucoup plus difficile à démentir. Mais c'est bien la résurrection corporelle d'un individu, à ce moment-là dans l'histoire, qui est affirmée. Ensuite, pourquoi 4 témoignages écrits de la résurrection? Est-ce que ce n'est pas prendre des risques quand on va comparer les témoignages entre eux? Si on pense qu'il y a complot, quelles sont les choses auxquelles on va être attentif? Eh bien, une des choses qui serait le signe d'un complot, c'est est-ce qu'on retrouve des similitudes évidentes dans la manière de dire les choses, dans la manière de relater les faits? Ce serait un peu pareil dans un procès, n'est-ce pas? Plusieurs témoins utilisent le même vocabulaire, décrivent la situation de la même façon, et on se dit, mais ils se sont consultés. Ils ont décidé ensemble comment ils allaient parler de la situation, de l'événement. Mais s'il y a similitude dans le fond avec les évangélistes, il y a des différences notables dans le choix du matériel, dans le choix des personnes qu'ils mentionnent, au point où il y a un véritable travail à faire pour reconstituer les faits. Et finalement, si on retient cette thèse, cette hypothèse d'un récit inventé par les disciples, il faut se demander comment est-ce que les disciples se présentent eux-mêmes dans le récit. Comment est-ce qu'ils se présentent dans le récit? Si vous êtes un disciple, comment est-ce que vous allez parler de vous-même dans le récit alors que vous voulez que les gens croient à votre histoire? Une des choses qu'on peut relever avec les évangiles et Luc ici, c'est qu'on parle des disciples de Jésus avec une franchise déconcertante. Fallait-il vraiment parler du triple reniement de Pierre? Fallait-il vraiment parler des disputes entre les disciples pour savoir qui était le plus grand? Fallait-il vraiment affirmer qu'aucun disciple, aucun, n'a cru à la résurrection au départ? Dans notre texte, fallait-il vraiment dire d'eux qu'ils ont reçu le témoignage de ces femmes comme des niaiseries? Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de vous présenter, si vous allez devenir un des piliers de l'Église naissante? Paradoxalement, ces signes de faiblesse sont des signes de force. Et on le retrouve dans la faiblesse ou la fiabilité des souvenirs, versets 1 à 8. L'auteur, Luc, relate comment plusieurs femmes décident de se rendre au tombeau où a été déposé le corps de Jésus. Elles s'y rendent avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. L'évangile, selon Marc, nous dit qu'elles se demandent qui va pouvoir rouler la pierre du tombeau. En effet, il fallait être riche pour se payer un tombeau. Et une des raisons pour une grosse pierre placée devant le tombeau, c'est pour prévenir tout pillage du tombeau. Éviter aussi que les bêtes sauvages s'en prennent au corps. Et cette grosse pierre est donc placée devant le tombeau. Et alors qu'elles arrivent, c'est l'étonnement parce que cette pierre est déjà roulée. Elles entrent dans le tombeau pour vérifier si le corps est bien là, mais il n'y est pas. Elles sont perplexes dans l'incompréhension, elles se demandent où se trouve le corps de Jésus. Et c'est au cœur de cette perplexité que se présentent deux hommes avec des habits éclatants. Un euphémisme de Luc pour décrire deux anges. Et la réaction des femmes, c'est la crainte. Elles s'inclinent, semble-t-il un signe de respect. Et naturellement, alors qu'on entend parler de l'apparition des anges, on réalise qu'il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse le normal, l'ordinaire. Et quelle est leur place? Alors, quelle est leur place dans le déroulement? Est-ce que c'est tout simplement pour confirmer quelque chose que ces femmes pouvaient espérer, la résurrection de Jésus? C'est justement le contraire. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La question, elle interpelle. Elle a même une pointe de réprimande. La suite le met en évidence. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. Autrement dit, il est ressuscité, selon d'autres versions. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Ces femmes font fausse route au niveau du raisonnement. Et ils sont là pour le mettre en évidence. Souvenez-vous. Autrement dit, vous qui venez apporter des aromates pour embaumer le corps, le prévenir d'une décomposition, vous qui le cherchez dans le tombeau, vous qui êtes perplexe, ça n'a pas de sens compte tenu de ce que vous avez entendu. Il n'est pas à chercher parmi les morts. Il fait référence ici à ce que Jésus a dit plus tôt à ses disciples alors qu'il était encore en Galilée. Et deux questions qu'on peut se poser sur cette affirmation. Deux questions et aussi deux remarques. Deux. Ça fait quatre. J'avais mis trois. Ça fait deux plus deux, ça fait quatre. Deux questions. Est-ce que Jésus avait effectivement annoncé sa résurrection aux disciples? Quand on lit l'évangile selon Luc, on voit plusieurs références à cela. Luc 9, 22, 40, verset 44 aussi, 13, 3, 17, 25, 18, 32. Je lis par exemple 9.22 où il affirme qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, qu'il se réveille le troisième jour. Dans ses paroles, l'expression « troisième jour » fait référence au premier jour, le vendredi, au moment de sa crucifixion, de sa mort. Samedi, deuxième jour. Troisième jour, c'est le dimanche, le jour où ils se rendront au tombeau. Et la deuxième question, donc Jésus a bien fait l'annonce de cela. Deuxième question, pourquoi est-ce que personne n'y a cru? Si Jésus a fait référence à cela autant de fois, pourquoi est-ce que personne n'y a cru? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucun des disciples qui se dit, c'était vendredi, là il y a eu samedi, dimanche, c'est le troisième jour. Pourquoi il n'y a aucun disciple qui se dit, c'est le troisième jour? Est-ce que personne à cette époque-là ne croyait à la vie après la mort? Quand on regarde le contexte juif, il y avait effectivement l'espérance d'une vie après la mort. Mis à part les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, on trouve les traces dans les Écritures, dans les prophètes, les psaumes, et même dans les livres de sagesse, d'une espérance d'une vie après la mort. Le texte que Mario nous a lu, le psaume de David, y fait référence. Mais pour tous ceux qui l'attendaient, cette résurrection interviendrait à la fin des temps, à la fin du monde. La résurrection corporelle d'un individu qui ne connaîtrait plus la mort, à ce moment-là dans l'histoire, c'était trop difficile à envisager. Les disciples ne s'y attendent pas, malgré ce que Jésus leur a dit. Les personnes qui viennent au tombeau le troisième jour, ce sont des femmes et elles y vont pour embaumer le corps. On a les signes de la faiblesse de leurs souvenirs. Deux remarques sur les paroles de Jésus qui sont rappelées. Deux remarques en fait sur deux expressions qu'on trouve dans cette phrase de Jésus. La première, c'est l'expression « il faut ». « Il faut ». Luc va mentionner ce verbe pas moins de 18 fois dans son livre. Il affectionne cette expression que Jésus a utilisée, « il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs ». Et par cette expression, Jésus annonçait à la fois la nécessité de sa mort et la souveraineté de Dieu dans ce qui allait se passer. Nécessité parce que c'est de cette façon qu'il prétendait obtenir le pardon pour ceux qui croient en lui. Souveraineté de Dieu parce que malgré l'épreuve qu'il devra subir, l'issue sera la résurrection. La mort n'aura pas le dernier mot. La deuxième remarque, c'est sur l'expression « livré ». Je l'ai mentionné brièvement quand j'ai parlé de ce qui se passe quand Jésus est passé de main en main. Mais c'est l'expression qui revient, et Luc se plaît à la souligner. « Judas livre Jésus aux autorités religieuses. » Judas livre Jésus aux autorités religieuses, celle-ci le livre à Pilate, Pilate le livre à Hérode, Hérode le livre à nouveau à Pilate. Luc mentionne ensuite comment Pilate livre à la foule qui demande « crucifie-le ». Chaque fois, c'est le mot « livré » qui est utilisé. Et les motifs pour livrer Jésus varient. Il y a l'argent, il y a la jalousie, il y a même une hostilité sans fondement, un mépris. Mais on peut résumer l'ensemble des motifs par une hostilité vis-à-vis de celui qui incarne Dieu parmi les humains. Si on tente de prendre ces deux expressions ensemble, il faut et livrer, qu'est-ce qui ressort? Jésus devait bel et bien souffrir. C'était annoncé. L'hostilité des humains vis-à-vis de Dieu, elle est réelle, elle est palpable. Il est livré de différentes façons, avec différentes motivations, mais il est bel et bien livré de main en main. Et pourtant, c'est de cette façon, qui semble très arbitraire, que Dieu va souverainement accomplir son projet de salut, de pardon, de rédemption. Les conséquences de notre hostilité vis-à-vis de Dieu, c'est Jésus qui les encaisse. Et il les encaisse en se substituant à nous, il encaisse la colère, la juste colère de Dieu, et il vit cette mort à la croix, à notre place. Et c'est ce contenu important qui a échappé complètement aux disciples Ils ont oublié les paroles qu'ils avaient entendues. Il fallait qu'ils soient livrés. Faiblesse des souvenirs. Et c'est pourtant avec ce souvenir que le passage se termine. Cette section se termine avec la remarque en parlant des femmes, et elles se souvinrent de ces paroles. C'est ce souvenir-là qui va permettre à ces femmes d'avoir une toute autre perspective sur la situation. On est dans la même situation, mais leur perspective va complètement changer.
J'ai entendu une histoire, ça remonte à un an ou plus d'un an, et je n'ai pas pu retrouver les références, mais il s'agissait d'un récit durant la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands ont beaucoup investi dans les sous-marins, les U-boats, la construction de sous-marins dans la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment donné, un de ces sous-marins a perdu le contact avec la base. Et au bout d'un certain temps, les familles ont été prévenues que les mariniers avaient certainement perdu la vie. Les familles étaient donc invitées à une commémoration, à célébrer la mémoire de ces mariniers qui avaient perdu la vie. Mais une des familles qui devait se rendre à cette commémoration a fait ce qu'il ne fallait pas faire en période de guerre. Il ne fallait pas écouter la radio des nations ennemies. Ils avaient écouté la BBC, et dans les émissions qu'ils avaient entendues, ils avaient entendu que le sous-marin en fait avait été capturé, les mariniers avaient été pris en tant que prisonniers, et ils se sont donc rendus à cette commémoration, mais avec une perspective toute différente. On devait commémorer le décès de leur fils. Et ils allaient à cette commémoration avec ce qu'ils avaient entendu, un message tout différent, une réalité toute différente. À ceux d'entre nous qui sommes croyants ce soir, ce texte rappelle qu'il y a des situations difficiles à vivre. Et d'une certaine façon, c'est là un peu la différence avec ce récit, cette histoire. Il y a des situations bien réelles que vous vivez et qui sont dures à vivre, qui en apparence n'ont pas de sens, des situations qui sont dures, et des questions qu'on se pose. Comment est-ce que je pourrais croire au pardon de Dieu alors que j'ai complètement dérapé sur le plan éthique? Comment est-ce que je pourrais croire en Dieu avec les relations conflictuelles que je vis en ce moment? Comment est-ce que je pourrais croire ou espérer en Dieu alors que tout semble s'effondrer autour de moi sur le plan du travail, des ressources, des projets? Sa mort et sa résurrection nous assurent que son pardon est complet. Ce pardon, il ne s'appuie pas sur notre capacité à nous racheter de nos fautes par nos œuvres. Il s'appuie sur l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection, il nous assure d'une communion avec Dieu, et il nous permet d'envisager les relations d'une manière toute différente. Parce que je sais que je suis uni à Dieu, réconcilié avec Dieu, je peux vivre différemment le rejet, les échecs sur le plan relationnel. Je peux vivre avec l'assurance d'un statut différent vis-à-vis de Dieu, et qui me permet d'être en paix. Sa mort et sa résurrection, elle nous assure de sa souveraineté sur les circonstances. Imaginez si Dieu a été souverain sur des circonstances où Jésus est livré de main en main, alors que tout le monde semble pouvoir faire de Jésus ce qu'il veut. Dieu reste souverain, alors il sera souverain sur les circonstances de ma vie, de mon existence. Et paradoxalement, c'est bien la force des souvenirs qui changent la perspective. La faiblesse ou la fiabilité des témoins maintenant. Le récit se poursuit avec le retour des femmes à la ville. Elles se rendent directement auprès des 11. Là, il s'agit d'une référence aux 12 disciples, moins Judas. qui a trahi Jésus. Et c'est à ce moment-là que Luc mentionne quelques-uns des noms, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques. Alors Marie-Madeleine a été mentionnée déjà dans son livre, au chapitre 8, verset 2. Quant à Marie de Jacques, c'est difficile de savoir si c'est sa mère, sa sœur, sa femme. A priori, ça semblerait être sa mère, si on compare avec Marc 15, 40, par exemple. Il n'y a pas de certitude. Pourquoi est-ce que Luc mentionne leur nom à ce moment-là dans le récit? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mentionné plus tôt, quand il commence à parler d'elle? Encore, je n'ai pas de certitude. Mais il semble qu'il fait cela au moment où la faiblesse de leur témoignage est le plus évident. Comment est-ce que les apôtres réagissent à leur témoignage, à la fin du verset 10? Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. La faiblesse du témoignage est apparente dans leur réaction. Ils pensent que ça n'a pas de sens. Et c'est là où Luc mentionne leur nom, comme pour donner du crédit à ce qu'elles affirment. Alors pour les disciples, il y a d'une part la difficulté de croire à quelque chose comme la résurrection. Il y a probablement aussi la difficulté de donner du crédit au témoignage de femmes. Alors mesdames, effectivement, c'est pas très glorieux, c'est même bien triste. On est là à une époque où, dans un contexte où peu de crédit est donné aux femmes. Prenez par exemple les paroles de l'historien juif Joseph au 1er siècle. Les femmes ne rendront pas de témoignage à cause de la légèreté de la témérité de leur sexe. Ou alors écoutez ce que l'auteur romain Cels dit au sujet de la résurrection. Il s'indigne de la croyance en la résurrection. Et une des choses qu'il va dire, c'est « Vivant, il n'a rien pu faire pour lui-même. Mort, dites-vous, il ressuscita et montra les stigmates de son supplice, les trous de ses mains. » Mais qui a vu tout cela? Une femme en transport, à ce que vous avouez vous-même. Le fait que ce soit une femme qui rend témoignage, ou plusieurs femmes qui rendent témoignage, selon lui, c'est un aveu de faiblesse. Mais quand on y réfléchit bien, ce qui est un aveu de faiblesse est paradoxalement un signe de force, n'est-ce pas? Si en tant que disciple, vous vouliez inventer un récit, monter un mythe, est-ce que vous auriez réellement choisi des femmes dans ce contexte-là pour, comme premier témoin? Et cette section se termine avec un autre témoin, Pierre, dont la curiosité a tout de même été un peu excitée. Il se rend au tombeau en courant. Il voit là aussi un tombeau vide. Il voit les bandelettes. Il est perplexe, comme les femmes. Mais remarquez qu'il n'y a pas de référence directe à « il crut » à la résurrection. Il est étonné. Il retourne chez lui. Mais il aura besoin de cheminer. Est-ce que vous auriez choisi des témoins pareils pour parler de la résurrection? Des femmes à qui on accordait tristement que peu de crédit, un homme qui a renié trois fois son maître. Mais la faiblesse des témoins représente paradoxalement leur force. Un spécialiste de l'évangile selon Luc le dit de cette façon. Ce n'est pas l'Église qui crée la résurrection. C'est la résurrection qui crée l'Église. La force de l'Église, elle ne repose pas sur des hommes et des femmes qui sont forts de manière intrinsèque et qui vont pouvoir, par leur détermination, convaincre n'importe qui, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont convaincants. Non, tout ce que on lit dans ce texte nous dit que les disciples étaient sceptiques, très sceptiques, sur la réserve, fragiles. Mais une fois convaincus, ils auront la force d'être témoins jusqu'au bout, à cause de la résurrection, parce qu'ils en sont certains. Et si vous et moi, on était aussi rendus forts par la certitude de la résurrection? Si vous et moi, on pouvait nous aussi avoir une perspective toute différente à cause de la certitude de la résurrection? Je vous invite à prier. fallait que le Fils de l'homme soit livré. Notre Père, nous voulons nous souvenir de ce que ta parole, les Écritures, ont annoncé à la fois les souffrances de Christ, mais aussi son relèvement, sa résurrection. Et nous basant sur ces témoignages, Père, en nous basant aussi sur cette conviction dont les apôtres ont pu, à laquelle les apôtres ont pu goûter, nous voulons vivre de la force de la résurrection. Accorde-nous de voir notre existence de manière toute différente, avec la certitude d'un pardon qui nous a été acquis, non pas à cause de nos efforts, de nos œuvres, mais à cause de sa mort et de sa résurrection. Je te le prie au nom de Jésus. Amen.